Alex, tu es Meucher, bonjour.
Bonjour Laura.
Alors parle-nous de ta passion des chiens de traîneau.
Eh bien écoute, là déjà on est installé sur Névache, la base de traîneau de Névache. On est sur le départ du col de l'Échelle. Tu vois, autour de nous, on a une meute avec 31 chiens. Voilà, moi ça fait longtemps que je suis dans le milieu du traîneau. J'ai eu la chance d'avoir un premier husky quand j'avais une douzaine d'années. Quand j'avais 15 ans, je suis rentré dans une association où ils avaient deux meutes de chiens sur le Vercors, à Vassuin en Vercors et à Saint-Agnan en Vercors. Par la suite, quand j'avais une vingtaine d'années, on m'a sollicité pour encadrer des raids en traîneau raquette sur 5 jours sur le Vercors, et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le milieu. Voilà, quelques années après, il y a le diplôme qui est rentré en vigueur, et puis j'ai passé le diplôme, j'ai commencé à avoir un chien, deux chiens, 10 chiens, 15 chiens, et là aujourd'hui j'en ai 25, et au maximum dans ma vie j'en ai eu jusqu'à 35. Voilà, maintenant j'ai un petit peu réduit naturellement ma meute pour pouvoir mieux m'en occuper.
Donc tu proposes des balades en traîneau, mais également plein d'autres choses.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'autour des activités de traîneau, alors là, on va surtout parler des activités hivernales, on propose deux choses principales, c'est-à-dire le portage, qu'on appelle aussi le baptême, c'est-à-dire que les personnes sont assises dans le traîneau, là, bien installées, et dans ce cas-là, ce n'est pas eux qui conduisent, on conduit pour eux. Et on propose cette activité à l'heure, et on propose cette activité à la demi-heure. Alors là, bien sûr, c'est tout public, selon les conditions de neige, hein, parce que c'est vrai que les enfants, lorsqu'ils ont moins de 4 ans, ils ont un petit peu du mal des fois à s'exprimer s'ils ont froid ou pas. Mais sinon, on le propose aux personnes âgées, aux personnes qui n'ont pas les conditions physiques pour pouvoir conduire un traîneau, des personnes en situation de handicap, c'est vraiment tout public. Et après, l'autre activité qui est un peu ma spécialité, parce que voilà, moi j'ai le diplôme d'état d'éducateur sportif en conduite d'attelage, c'est d'apprendre aux gens à conduire leur propre traîneau. C'est exactement ce que tu vas faire cet après-midi, Laura.
Et combien faudra-t-il de chiens au minimum ?
Alors, ça dépend de deux choses. Alors, ça dépend bien sûr du poids de la personne, ça dépend du gabarit des chiens, et surtout, ça dépend des conditions de neige et de la température. C'est-à-dire, dans la tête des gens, on pense que c'est le froid le danger. C'est pas le froid du tout le danger pour les chiens. C'est la chaleur qui est le danger pour les chiens. Là, aujourd'hui, on est sur un hiver un petit peu particulier. Là, on va mettre 4 chiens parce que les chiens vont un petit peu souffrir de la chaleur cet après-midi. Si jamais il avait fait moins 10, il aurait fallu 3 chiens. Pourquoi ? Parce que jusqu'à moins 10, moins 15, c'est là où les chiens ont le plus de capacités, c'est là où ils arrivent à réguler le plus facilement leur température. Pourquoi les chiens sont adaptés au froid plus qu'à la chaleur ? En fait, les chiens ont une particularité physiologique, c'est que les chiens ne transpirent pas. C'est ce qui fait qu'en fait, les chiens ne vont pas dégager d'humidité corporelle qui, au contact du froid, va les faire geler. Donc partant de là, même un Yorkshire, même un Chihuahua ne transpire pas. Alors après, il n'a pas du gros poil, mais du coup, il est beaucoup plus facile pour lui de se protéger du froid qu'un autre animal, comme nous par exemple. Le danger, c'est la chaleur. C'est pour ça qu'on pourra parler un peu de la race de mes chiens qui est un petit peu particulière, qui est un petit peu plus adaptée à la chaleur, dans le sens où elle n'a pas de sous-poil comme les races de chiens nordiques qui, eux, du coup, ont un peu plus de mal lorsqu'ils commencent à faire chaud. C'est-à-dire que moi, mes chiens, ils peuvent travailler jusqu'à 12-13 degrés. Au-delà de 7-8 degrés pour un pur chien nordique, ça devient vraiment dangereux. En fait, le système de refroidissement des chiens, c'est juste la gueule, le museau, la langue. C'est pas un système qui est très très au point. Nous, on transpire, c'est ça qui fait qu'on peut se protéger de la chaleur, et c'est ce qui fait que notre espèce a réussi à se développer pratiquement sur la planète entière.
Et comment on conduit un traîneau ?
La conduite de traîneau, c'est pas si compliqué que ça. En fait, il faut comprendre que les chiens doivent être continuellement en traction. D'accord ? Un traîneau, en fait, sans les chiens, c'est indirigeable. Pourquoi ? Parce que c'est deux patins parallèles, c'est comme une luge.
Et comment on place les chiens ?
Alors, comment on place les chiens ? Déjà, on place les chiens par affinité. Il faut avoir souvent, on a deux frères, ou la maman, le fils ou la fille qui sont à côté. Là, ensuite, ils ont des places bien définies. Alors là, on va être sur des petits attelages, dans le sens où il n'y a que 3 ou 4 chiens. Mais si on considère un gros attelage comme nous, on a en portage, où là, on peut avoir jusqu'à 10, 12, 14 chiens. 14 chiens, c'est assez rare. Mais les chiens qui sont le plus proches du traîneau, on appelle ça les wheel dogs. On a beaucoup de termes anglais. Les wheel dogs, en fait, ce sont les chiens qui sont le plus proches du traîneau. C'est les plus costauds. Pourquoi ? C'est eux qui vont dépenser le plus d'énergie pour faire partir le traîneau. Il faut imaginer que c'est comme le premier coup de pédale en vélo. C'est là où il faut vraiment avoir les chiens qui sont costauds. Au milieu, après, on a la team dog. C'est eux qui vont, on dira, mettre le rythme. Et ensuite, on a les swings et surtout le chien le plus important ou les chiens les plus importants, ce sont les leaders ou chiens de tête. C'est eux qui connaissent leur gauche et leur droite. La différence, je dirais, avec l'équitation, même s'il y a des très bons cavaliers, des très bons chevaux, et ben qui dirigent leurs chevaux à la voix, la plupart du temps, on utilise des rênes pour aller à gauche ou à droite. Là, il n'y a pas de rênes. C'est-à-dire que lorsque j'ai un attelage de 12 chiens, mon chien de tête, réellement, il est à 12-15 mètres devant moi. Et c'est que à la voix, je vais le diriger. Alors, il connaît sa gauche, il connaît sa droite, il connaît serre à gauche, serre à droite, parce que quand on est dans une plaine comme ici à Névache, on n'a pas forcément une piste qui tourne à gauche 90 ou à droite 90. Des fois, eh ben, il faut juste passer entre deux cailloux. Des fois, il faut essayer de s'écarter d'un skieur de fond sans l'apeurer. Donc du coup, ça demande des termes qui sont très très particuliers. Et le chien de tête, je dirais, c'est vraiment l'élément principal de toute une meute. Là, j'ai 25 chiens. J'en ai 20 qui sont actifs. Pourquoi ? Parce que j'ai 3 jeunes chiens qui sont en débourrage. Là, ils sont à 7-8 mois. C'est quoi le débourrage ? Ça veut dire que le chien ne travaille pas encore. On l'habitue au harnais. Pour eux, c'est un jeu. D'accord ? C'est un jeu qui est lié aussi à la prédation, le fait de courir. Mais c'est vraiment un jeu. Et toute cette première année, pour les chiots, enfin les jeunes chiens, il faut que ça soit un jeu. Et j'ai 2 papis. Alors, pourquoi les papis sont là ? Pourquoi ils ne sont pas au chenil ? Parce qu'on est plus, je dirais, sur le modèle africain que sur le modèle européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison de retraite. Ces deux chiens, eh ben, qui travaillaient jusqu'à l'année dernière, même s'ils étaient en pré-retraite l'année dernière. Si je les laisse au chenil, eh ben, ils sont malheureux, alors que là, eh ben, ils sont avec... En fait, une meute, hein, c'est une famille. Là, ils restent avec le reste de la famille, on les met avec les chiots, et puis comme ça se passait à l'époque, les vieux éduquent les jeunes. Voilà.
Et tous ces chiens, donc c'est beaucoup de temps ?
Ah oui, 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 c'est vraiment beaucoup de temps. Voilà. Enfin, c'est dans ce sens-là où un musher, eh ben, qui ferait ce boulot sans passion... Ça marche pas. Enfin, dans le sens où si on fait musher juste pour gagner de l'argent, c'est pas possible. Ça demande trop de contraintes. Ça demande des contraintes familiales, ça demande des contraintes sociales, de temps. Il faut toujours être à l'écoute, il faut être là. Enfin, vous voyez, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'au moins en plein hiver, nous les mushers, on bosse juste à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures sur 24 heures. C'est-à-dire qu'on est là pratiquement tous les matins à 7 heures du matin et on repart à 19 heures. Et oui, c'est une contrainte en termes de vacances. C'est le plaisir de travailler avec des animaux. C'est le plaisir de travailler surtout avec le chien qui est quand même qui est un animal qui est extrêmement particulier. Alors bon, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais il faut savoir que c'est vraiment le premier animal qui a été domestiqué par l'homme. On estime que le chien, l'ancêtre du chien et du loup, a été domestiqué 18 000 ans avant Jésus-Christ. Pour se faire une petite référence, le cheval, on estime aujourd'hui que c'est 8 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Donc on a vraiment une histoire avec le chien qui est très 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 vieille. Pourquoi ? Eh ben, le premier animal qui a été domestiqué, pourquoi ça n'a pas été un renard ? Pourquoi ça n'a pas été un ours ? C'est simplement que c'était des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vivaient en meute et qu'on a remplacé le chef de meute. C'est aussi parce qu'à l'époque, le régime alimentaire de ces animaux-là était proche du nôtre. On estime, on suppose qu'en fait les meutes de l'ancêtre du chien et du loup nous suivaient, mangeaient nos restes et au fur et à mesure nous prévenaient sur les grands prédateurs. Et certainement, des louveteaux, des jeunes ont été capturés. Il y a certains scientifiques qui pensent que si le sens qu'on a le plus perdu, Laura, c'est lequel ? Parmi les 5 sens qu'on a ?
L'odorat.
Les scientifiques pensent que si on a perdu l'odorat, c'est parce que le chien l'a remplacé. Il y a même d'autres scientifiques qui pensent que si sur la fin de notre évolution, l'être humain a eu une stature verticale aussi rapidement, c'est qu'on n'était plus obligé de poser le nez au sol pour sentir. D'accord ? Donc ça va très très loin en fait notre relation avec le chien. À l'époque du néolithique, on aurait mis certainement beaucoup plus de temps de passer de l'état de chasseur-cueilleur à l'état d'éleveur-agriculteur. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait garder les chiens. Du chihuahua jusqu'au Saint-Bernard, c'est la même espèce. Le chien est l'espèce animale au monde qui a le plus de morphotypes différents. Pourquoi ? Parce que ça a été le premier animal qui a été domestiqué par l'homme. À la base, les chiens n'étaient pas des chiens domestiques juste pour le plaisir. Voilà. Non, mais même le Yorkshire, c'était un ratier. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque médiévale, avant l'arrivée du chat qui nous arrive d'Orient, les seules manières de tuer les rats et les souris, c'était le chien et c'était la genette, une espèce qui nous venait du Maghreb et qui a été introduite dans le sud de la France. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours eu n'importe quelle race de chien a son utilité. C'est toujours des chiens d'utilité. On s'en écarte beaucoup aujourd'hui, sauf certaines activités comme le chien traîneau. On pourra après parler de nos chiens un peu particuliers. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans ce travail d'évolution et ben de la race pour avoir du chien extrêmement extrêmement utile. Je reviens un peu sur l'activité de conduite d'attelage. Voilà, l'activité de conduite de l'attelage sur les vaches, on la propose à l'heure et on la propose à la demi-journée. C'est ce qu'on va faire cet après-midi, c'est-à-dire qu'on va passer le col de l'échelle, on va se rapprocher de l'Italie, on va pas pouvoir descendre de l'autre côté de la vallée parce qu'il y a des tunnels. Et le problème des tunnels, c'est qu'il n'y a pas de neige dessous, donc c'est un peu difficile pour le traîneau. Peut-être qu'on aura la chance, c'est assez fréquent, mais peut-être qu'on aura la chance de voir des chamois. On voit des espèces qui sont emblématiques de la montagne, du casse-noix moucheté, du bec croisé des sapins, et puis on aura peut-être la chance de voir des chamois.
Et quelles sont tes races de chiens ?
Pour te parler des races de chiens, d'abord, est-ce que tu connais l'origine du mot musher ? Tu sais qu'un conducteur traîneau, on appelle ça un musher. Partout dans le monde, un conducteur traîneau, on appelle ça un musher. Partout dans le monde, l'activité de traîneau, on appelle ça le mushing. Et en fait, bon, c'est assez rigolo, c'est qu'en fait, ça vient du français. À l'époque où le traîneau n'était ni un sport, ni un loisir, mais la seule manière de se déplacer en hiver, on pensait à tort qu'il fallait toujours parler au chien pour qu'il travaille. Donc, et effectivement, si tu éduques ton chien à lui parler tout le temps pour qu'il travaille, pour qu'il tracte, c'est vrai que quand tu tais, il s'arrête. Maintenant, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, plus on se tait, moins on parle au chien, mieux il travaille, et puis du coup, ils écoutent mieux les ordres. Donc du coup, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on disait aux chiens ? On disait, notamment nos cousins québécois, on disait quoi aux chiens toute la journée ? On disait « marche, marche ». Marche. Alors je vais pas te faire l'accent québécois parce que j'ai l'air ridicule et puis qu'il est très difficile à imiter, mais en fait un québécois qui dit marche, ça fait pas tout à fait marche. Et comme ils échangeaient des chiens avec les canadiens anglophones, eux étaient incapables de dire marche, ils disaient quoi ? Ils disaient mush. Et ça s'est transformé en musher, ça s'est anglisé et en mushing. Dans le monde du mushing, il y a une toute petite école et une très grande école au niveau des races de chiens. La petite école, c'est celle qui utilise les races nordiques, qui est très française. Alors, faut savoir que, bien sûr, la race de chien nordique la plus connue en France, c'est le Siberian Husky. Alors, en fait, voilà, pourquoi il est si connu en France ? Parce qu'il a été victime de ses yeux bleus. Faut savoir qu'à la base, en fait, il y a moins de 10% des huskies qui ont les yeux bleus. C'est un caractère récessif qui, dans les années 90, a été développé par des éleveurs, je dirais, plutôt peu scrupuleux, parce qu'il y avait une mode et qu'on fait, alors ça, avoir les yeux bleus, c'est pas très compliqué. En 5 ou 6 générations, donc c'est-à-dire 3 ou 4 ans, tu peux avoir tous tes chiens, tous tes huskies qui ont les yeux bleus lorsque tu es un éleveur. Ils ont fait ça en sorte aussi de réduire un petit peu la longueur du chien pour qu'il puisse être plus malléable. Donc on s'est beaucoup éloigné du chien de travail. Malheureusement, pourquoi je dis c'est tristement célèbre ? Parce qu'en fait, il a été victime de sa notoriété. Il faut savoir que de 1990 à 2000, le husky de Sibérie est la race de chien la plus euthanasiée en France. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un engouement, tout le monde voulait avoir des huskies. Alors on dit un petit peu à tort que le chien, il a besoin de travailler. S'il a été éduqué dans ce sens-là, oui, il a besoin de travailler. Mais tu le mets sur un canapé avec Plus belle la vie toute la journée, il est content aussi. On dit aussi qu'il craint la chaleur. Après, s'il ne travaille pas, c'est pas si grave que ça. Tu sais, les amplitudes thermiques qu'il y a en Alaska et au Canada sont bien plus importantes qu'ici. Il arrive qu'il fasse très très chaud l'été aussi en Alaska. Tant que le chien ne travaille pas, ça va. Par contre, c'est un chien extrêmement sociable. C'est-à-dire que ce n'est pas un chien que tu peux laisser seul. Le minimum de la meute pour lui, c'est quoi ? Lui et son maître. Donc c'est un chien, à partir du moment où tu le laisses tout seul, il n'est pas content, il ne va pas bien, et voilà. Et au-delà de ça, comme c'est un chien qui est très chasseur, fugueur, c'est des chiens qui sont extrêmement, qui sont parmi les chiens les plus primitifs. Ça crée des problèmes, les chiens fuguer, aller manger les poules du voisin, les brebis ou le chat du voisin, voilà. Il y a d'autres races de chiens qu'on n'a pas ici, tu le vois bien, là on a deux huskies de Sibérie, on n'en a que deux. On a aussi comme autre race de chiens, on a le malamute d'Alaska, ça c'est ce qu'on appelle la locomotive des neiges, c'est des chiens qui peuvent faire jusqu'à 80 kilos. On a le groenlandais, le chien du Groenland, qui en France a été quand même assez célèbre par rapport à Paul-Émile Victor, qui avait beaucoup exploré le Groenland et puis qui avait ramené des chiens. Alors le groenlandais, c'est grâce à lui que l'être humain pour la première fois a réussi à atteindre le pôle sud et à traverser l'Antarctique. Notamment, il y a une expédition qui est célèbre avec Jean-Louis Etienne, qui s'appelle la Transantarctica, qui était en 1984. C'est un chien qui supporte jusqu'à moins 50 degrés. Pourquoi moins 50 degrés ? Parce qu'il a son gros poil. Mais il faut se mettre dans la tête que si ce chien-là, il transpirait, ce qu'on disait tout à l'heure, même s'il a du gros poil, si la nuit, il transpire, à moins 50 degrés, il est mort. Donc ça, c'est vraiment les chiens les plus rustiques. Et maintenant, l'autre grande famille de chiens de traîneau, maintenant 90% des chiens de traîneau, je dirais, dans l'activité de sport et dans l'activité de tourisme, et 99,9% dans le sport, c'est-à-dire dans les courses, c'est l'Alaskan Husky. C'est tous les chiens que tu vois là. En fait, là, sur les 35 chiens, il y a deux huskies. Tous les autres, même s'ils ne se ressemblent pas, ce sont tous des Alaskan Husky. Pourquoi ils ne se ressemblent pas? Parce que ces chiens-là ne sont pas basés sur un morphotype, d'accord? C'est pas comme le pedigree, c'est pas comme le Lof, le livre des origines françaises, ou par exemple, Husky de Sibérie, Siberian Husky, voilà, il doit avoir telle couleur, telle taille, telle longueur, et voilà. Là, c'est vraiment basé sur plusieurs critères, mais le principal, c'est celui de la performance. Alors, qu'est-ce que c'est l'origine de ce chien? On est d'accord, c'est des métis, c'est des bâtards, c'est des corneaux, mais de haute lignée. C'est-à-dire que ce sont quand même des chiens qui sont sélectionnés, qui sont surtout sélectionnés depuis la fin du 19e siècle. Avant, l'Alaskan Husky, c'était déjà un chien qui était croisé entre, je dirais, le Malamute d'Alaska, le Siberian Husky, et puis des chiens d'Amérindiens, mélangés avec du coyote, avec du loup. Mais en fait, l'origine de ce chien, surtout, c'est lié à la ruée vers l'or, qui se passe à la fin du 19e siècle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui habite en Alaska. Donc comme il n'y a pas beaucoup de monde qui habite en Alaska, il n'y a pas beaucoup de chiens. Partant de là, la ruée vers l'or. Alors la ruée vers l'or, c'est quoi? On découvre à la fin du 19e siècle, d'abord au Canada et ensuite en Alaska, de l'or dans les rivières. Il y avait déjà beaucoup de désinformation des médias. On racontait qu'il y avait juste à se baisser pour amasser des rochers d'or dans les rivières. Si ça s'appelle la ruée, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent tenter l'aventure. Il y a aussi eu des Européens, il y a eu des Français. Et qu'est-ce qui manque cruellement? C'est des chiens. Mais c'est vraiment, il y a vraiment eu un engouement. Hein. Et il y a vraiment eu un engouement tout ça, autour de ça. Par exemple, la ville de Dawson City, on appelle ça une ville champignon. Pourquoi? Parce qu'elle s'est créée en 3 semaines, 1 mois. Donc du coup, comme il manque de chiens, il y a des gens qui se disent, plutôt qu'aller chercher de l'or, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du business de chiens. Et c'est l'histoire de Buck dans l'appel de la forêt. Il y a des réseaux qui se montent et dans le sud des États-Unis, on va acheter, on va voler des chiens, on en remplit des bateaux entiers, des centaines de chiens, des milliers de chiens, tout ce qui fait plus de 30 kilos et qui a un petit peu de poil. Il n'a jamais vu un harnais de sa vie, il n'a jamais vu un traîneau, il a encore moins vu la neige. Souvent, ça se passait dans le sud des États-Unis. Les orpailleurs qui arrivent, ils y connaissent absolument rien. On leur vend un chien, on leur dit, ça, c'est un super chien de traîneau. Le chien, il n'y a pas de SPA à l'époque, autant dire que s'il tracte, il survit, s'il ne tracte pas, il ne survit pas. Partant de là, comme il y a besoin d'encore plus de chiens, on va faire des croisements entre ces races de chiens qui n'avaient absolument rien à voir, donc du chien de chasse, du chien de berger, et les deux races de chiens nordiques qui étaient présentes sur place, qui étaient surtout le Malamute d'Alaska et le Siberian Husky. Et là, on se rend compte que ces croisements de chiens qu'ils ont appelés Alaskan Husky, pourquoi? Parce qu'en Alaska, tout ce qui tire un traîneau, on appelle ça des huskies, il y a le Siberian Husky, le Malamute Husky, s'ils avaient attelé des Chihuahuas, ils les auraient appelés les Chihuahua Husky. Partant de là, du coup, ces Alaskan Husky se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus performants que les chiens nordiques. Pourquoi? Parce que dans la tête d'un chien nordique, c'est ancré génétiquement, qu'il passe des hivers longs et rigoureux. Donc il va toujours garder de la réserve. Par exemple, un très bon husky de course ne travaillera jamais à plus de 70% de ses capacités. Là, j'ai deux chiots qui viennent du champion du monde de l'année dernière de mi-distance. C'est des chiens, si moi je ne les contrôle pas, ils sont capables d'aller à plus de 100% de leur capacité. 100% de leur capacité, ça veut dire quoi? C'est que le chien, il est capable de tirer jusqu'à tomber dans les pommes. Là, on a deux lignées, en fait. On a deux grandes lignées. Tous les chiens qui ont un petit peu de poil, comme Pépère qu'on voit là, sur notre droite, ou comme Ike ou Isia, là, qui est en train de se lécher les pattes, ce sont les lignées américaines. Donc, des chiens qui ont un petit peu plus de poils. C'est la race de chiens la plus endurante au monde. C'est vraiment des chiens qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement endurants. Ils peuvent faire plus de 100 km par jour s'ils sont très, très bien entraînés. Tous les chiens que tu vois qui ressemblent à du chien de chasse, même si on voit qu'il y en a certains qui ont des yeux bleus, ou quand les yeux verrons, ou les yeux parsicolores, ça sous-entend que dans leur génétique, c'est-à-dire les grands-parents ou les arrière-grands-parents, il y a du husky de Sibérie. Ça, ce sont plutôt les lignées européennes. C'est des croisements qui ont été faits, en fait, par les Scandinaves, les Suédois à la fin des années 70, début des années 80. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour amener de la vitesse aux chiens. Donc ce type de chien est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide, beaucoup plus endurant. Alors on est d'accord, il supporte un petit peu moins le froid. Mais bon, là tu vois, aujourd'hui, est-ce qu'il fait froid? On a mis 600 mètres d'altitude.
Ouais, il fait bon.
Il fait bon. On est assez loin en France, en fait,
du vent.
On a du vent, voilà, qui nous rafraîchit un peu en allant du nord. Mais tu vois, on est assez loin du cercle polaire arctique. Donc partant de là, en fait, les chiens nordiques vont beaucoup plus souffrir de la chaleur, comme on en parlait tout à l'heure. Ces chiens-là sont quand même beaucoup plus adaptés. Alors là, là où il faut faire attention, c'est que c'est des chiens qui ont tendance à se donner un peu plus fort. Enfin, même des fois carrément plus fort. Donc il faut faire attention et les réguler. Donc ils supportent mieux la chaleur. Mais bon, en Alaska, quelqu'un qui va faire le touriste en Alaska ou en Scandinavie a 90% de chances d'avoir des Alaskan Husky. À la fois les chiens qui ont un petit peu de poils, comme je te disais, si c'est en Alaska ou au Canada, et à la fois les chiens qui ressemblent à du chien de chasse si on est en Scandinavie. C'est beaucoup plus facile, comme tu vois, là on le voit pas, il est dans la niche, mais Peter, le papy qui avait son manteau sur le dos tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre un manteau à un chien lorsqu'il fait moins 20 que de lui enlever les poils lorsqu'on va se rapprocher des 10 degrés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, les chiens, et puis la plupart des mushers, on leur demande trois choses principales. Être performant. Là encore, que la performance, c'est quoi? C'est surtout qu'ils aient ce qu'on appelle le will to go. C'est vraiment, comme je te disais, il y a beaucoup de termes anglais, le will to go, c'est l'envie de tirer. Donc ces chiens-là ont beaucoup plus de will to go. Alors là, on les voit tous peinards, ils dorment, et tu vas voir quand on va partir tout à l'heure, ils vont retourner la casquette et puis ils vont y aller à fond. Donc beaucoup plus l'envie de tirer. La deuxième chose, c'est qu'ils soient adaptés à l'esprit du musher. Voilà, moi j'ai travaillé avec, j'ai eu des nordiques avant, j'ai surtout travaillé avec des copains qui avaient des nordiques quand j'étais plus jeune. Tous mes chiens, on peut tous les lâcher en liberté. Tu verras que sur le départ, on va pas les tenir. D'accord ? On va les lâcher en liberté, on va les atteler les uns après les autres. Le matin ou le soir, quand on les sort ou quand on les rend, on les lâche tous en liberté, ils ne vont pas fuguer. Donc ça, c'est une facilité. Et puis, tu verras que quand on va revenir, tous les chiens seront en liberté autour de toi et tu pourras les papouiller, tout ça. Un chien nordique, pour la plupart, même si exceptionnellement, ils répondent bien, ils ont du rappel, ce qu'on appelle. La plupart du temps, on ne peut pas les lâcher en liberté. Et troisième chose, comme on l'a déjà évoqué, et c'est surtout la principale, c'est qu'ils soient adaptés à leur milieu naturel. D'accord ? Là, il ne fait pas froid. D'accord ? Quand le 21 février à 1600 mètres d'altitude, il ne gèle pas, c'est qu'il ne fait pas froid. Et là, du coup, les chiens sont quand même beaucoup plus habitués. On va emmener un petit peu d'eau quand même pour les hydrater. Mais comme je te disais, ces chiens-là supportent beaucoup plus la chaleur. Ils vont moins être en souffrance. Alors, dans l'imaginaire des gens, c'est sûr que quand on arrive et qu'on ne voit pas, c'est moins romantique qu'un chien nordique. Mais quand on arrive et puis qu'on voit ces chiens-là, on se dit oh là là, les pauvres chiens quand même. Et ben non, en fait, maintenant, de plus en plus, avec les chaleurs qu'on a, quand on voit des gros nordique avec 25 cm de poils qui tire en plein soleil, et c'est là où il faut dire là les pauvres chiens. On est d'accord, tu verras, il y a des chiens, on leur voit les côtes. Il y a des chiens, ils sont plutôt maigres. Alors, si tous les chiens étaient maigres, tu pourrais te dire lui il les nourrit pas assez. Non, c'est pas pour rien. En fait, il y a quelques chiens qui sont maigres, c'est pas compliqué, c'est les meilleurs. D'accord ? Pourquoi les chiens sont maigres ? Ces chiens-là, comme je t'ai dit, c'est les plus endurants au monde. Partant de là, c'est des marathoniens. Facilement, les chiens, s'ils sont bien entraînés, s'il fait moins 10 et que les gens tiennent sur un traîneau, on peut faire facilement 40 km dans la journée. Ils n'en souffriront absolument pas. Pourquoi on leur voit les côtes ? Comme je te dis, c'est des marathoniens. C'est-à-dire que pour être marathonien, avant de pouvoir tracter ou courir longtemps, il faut pouvoir porter son propre poids. À partir du moment où tu as un chien qui va faire 40 ou 50 kilos, il faut déjà qu'il porte son propre poids avant de tirer. Donc comme ces chiens-là sont des marathoniens, c'est des chiens qui sont affûtés. Et là, on est en milieu de saison, on est même dans le creux de la vague. Donc les chiens, ils sont vraiment, ils ont vraiment une anatomie de sportif. Alors tu vois, tout à l'heure quand on reviendra, on leur donnera une soupe avec des croquettes et de la graisse d'huile de saumon. Pourquoi ? C'est pour les obliger un petit peu à s'hydrater. Il faut savoir que, nous par exemple, en tant que sportif, être humain sportif, on va plutôt taper sur les filières énergétiques, ça va plutôt être le glucose. Les chiens, c'est plutôt les lipides pour pouvoir avancer. Voilà, tu vois la Padrig là qui travaille avec moi, là, il est en train de graisser les pattes des chiens. Pourquoi ? Parce que les plus gros traumatismes, un chien qui aurait une tendinite ou qui se ferait une épaule, c'est-à-dire qui met la patte dans un trou, là, faut se faire attention parce que on est sur de la neige un petit peu difficile. Voilà, pour les auditeurs, faut vous dire, la neige, elle est un petit peu molle, là. Et en fait, le plus dur pour les chiens, parce qu'il y a les plus grosses blessures qu'ils prennent, c'est ce qu'on appelle les crevasses. C'est des crevasses qu'ils attrapent. Voilà, c'est des crevasses qu'ils attrapent entre les doigts, entre les coussinets, les doigts, et c'est la neige mouillée qui l'occasionne. Et pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, des fois, on leur met des bottines, mais surtout, on leur graisse les pattes. Après, peut-être que je vais t'expliquer comment on conduit un attelage.
Allez.
Alors, les autres, lorsque tu vas devoir stopper, il faut dire au chien « Oh !» et tu freines. À l'arrêt, tu restes toujours un pied sur le frein, une main sur le guidon, parce que tu vois ce petit bruit, ça te parle pas. Mais ça, pour les chiens, ça veut dire « on part ». On part avec ou sans toi. D'accord ? Donc on garde toujours un pied sur le frein, une main sur le guidon. Toujours un pied sur le frein, une main sur le guidon. Et voilà, et on va évoluer comme ça en se suivant. Ensuite, le départ. Tu vois que tous les traîneaux sont attachés à une corde. C'est pas parce qu'on va faire le petit train. C'est pour être sûr que au moment où on va atteler les chiens, c'est un moment où les chiens s'excitent un petit peu, pour être sûr que tu ne partes pas sans moi. Ça ne sert à rien de partir sans moi, en fait. Hein. Voilà. Donc, à partir du moment où on va atteler les chiens, je vais te demander de rester les deux pieds sur le frein. Tu restes les deux pieds sur le frein, les chiens vont aboyer, les chiens vont tirer, les chiens vont s'en mêler, les chiens, des fois, eh ben, ils s'embrouillent un petit peu entre eux. N'aie aucune crainte, à chaque départ, c'est comme ça, c'est normal. Au moment où on va devoir partir, moi je pars devant, Patrick, eh ben, il va te détacher ton traîneau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lâcher le frein et tout de suite, tu vas mettre le pied sur le tapis. On fait une centaine de mètres, moi je fais une centaine de mètres, je t'attends, tu me rejoins, Patrick nous rejoint et puis après, hop, on va prendre la piste damée, monter en direction du col de l'échelle tranquillement. D'accord? Les bonnes choses à penser, en fait, les causes de chute qu'on a en traîneau, c'est, il y en a deux principales. La ligne de trait n'est pas tendue. En descente, tu as oublié de freiner un moment. Ton traîneau ne prend pas la même direction que les chiens. Et en général aussi, c'est quand tu t'es pas assez penché sur un virage. Si jamais tu chutes, qu'est-ce qui se passe? Simplement, eh ben, et si tu as lâché le traîneau, tu nous préviens, tu fais Alex, Alex, les chiens ils me rejoignent parce qu'ils savent que c'est papa qui va pouvoir les aider. Je récupère le traîneau et tu me rejoins.
On rentre de balade. Merci beaucoup Alex, t'es sublime, magique.
Bon, ça t'a plu?
Oui, ah, superbe. En plus, superbe panorama, du beau temps.
Oui, là, il faisait super beau. Bon, on n'a pas réussi à avoir des chamois, mais bon, tu vois quoi, quand même que les chiens, on les oblige pas du tout à tirer. Ils étaient là, ils étaient motivés. Bon, on est pratiquement allé jusqu'en Italie, on est revenu. Ben là, tu vois, tous les chiens sont en liberté. Ouais, on voit vraiment qu'ils ont ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le will to go, l'envie vraiment de tirer, que c'est pas une contrainte, c'est pas du tout une contrainte pour eux, quoi.
Et là, c'est le moment, donc, de liberté, des papouilles et de la soupe bien chaude.
C'est ça, voilà, bah, pour obliger un peu les chiens à s'hydrater au retour. On leur prépare à l'avance une soupe avec des croquettes. Tu vois, ils étaient tout ça servi dans quatre grands seaux qui leur permet en fait de tous boire. Il n'y a pas de bagarre. Ils sont assez dociles, ils sont quand même bien adaptés à l'activité qu'on fait.
Et ils font entre 3 et 4 balades par jour.
C'est ça. Alors ce matin, on avait fait 3 baptêmes, c'est-à-dire du portage assis dans le traîneau. Et puis cet après-midi, donc on est parti à la demi-journée. On préfère partir à la demi-journée, comme ça le col de l'échelle un petit peu moins fréquenté par d'autres touristes.
Oui, parce qu'il faut partager les pistes.
Oui, voilà, bah du coup là on est quand même sur un parcours emblématique de la vallée de la Clarée, hein, la piste du col de l'échelle, elle est fréquentée par des raquettistes, par des skieurs de fond, par des skis de rando, la petite famille avec les enfants en luge. Bon bah c'est pas un secret, Névache, hein, c'est un pays de fondeurs, donc il y a beaucoup de pistes de ski de fond. Mais tu vois qu'avec notre type de chien et puis sur l'activité, ça s'est très très bien passé. On a croisé pas mal de monde. Mon chien de tête, quand je lui demande de serrer à gauche ou de serrer à droite, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, il y a des contraintes. Il faut qu'on... Les chiens, ils font des crottes sur la piste. Donc, on ramasse les crottes pour pas embêter les skieurs. Mais ça se passe quand même très, très bien. Nous, tu vois, là, on disait, on est le 21 février. Moi, on n'a jamais eu une seule remarque d'autres utilisateurs de la piste. On est vraiment dans une bonne entente. Même que lorsqu'on croise des gens qui se promènent avec des chiens ou ça arrive que sur la piste, on croise des lamas ou des poneys. Voilà, les chiens, ils sont très dociles et on peut vraiment bien partager les multiples activités que la commune de Névache propose.
Et si on veut faire du traîneau comme moi aujourd'hui, comment on fait?
Alors, il y a deux solutions pour faire du traîneau. Sur tout ce qui est au niveau des réservations, sur tout ce qui se passe sur, je dirais, Serre Chevalier, il faut contacter Jordi Chien de Traîneau, qui travaille aussi sur Serre Chevalier. Et après, sur toutes les personnes qui sont sur la vallée de la Clarée et la commune de Névache, il faut contacter l'hôtel Les Chaillons, qui est donc sur la commune de Névache. Ces deux organismes prennent les réservations. Donc voilà, je rappelle, sur du baptême à l'heure ou à de la demi-heure, c'est-à-dire assis dans le traîneau, et après de la conduite d'attelage à l'heure ou bien la demi-journée comme on a fait cet après-midi.